Bonjour à tous et bienvenue dans Extramuros. Extramuros, c'est l'émission hors les murs de Radio Évasion. Il est à peu près 15h et on est toujours au tournoi de Dirinon. Depuis hier, on vous fait découvrir la compétition, une compétition qui regroupe des moins de 11 ans chez les garçons et des moins de 13 ans chez les filles. Et le principe de l'émission ne bouge pas par rapport à hier. Des jeunes de l'AS Dirinon et des bénévoles de Radio Évasion nous accompagnent pour animer cette émission. Alors au programme de cette émission, justement, on recevra Jean-François Cadraon, le vice-président de l'AS Dirinon, en charge de l'organisation du tournoi. On essaiera de connaître l'envers du décor et comprendre comment fonctionne ce tournoi. Mais sans attendre, on fait un point sur les différents résultats avec Ewen, Tugdual et Bleuen. Et on va s'intéresser d'abord aux matchs des filles qui ont lieu ce matin. On va s'intéresser à une belle affiche, c'était un Montpellier-Nantes, ça se passait sur le terrain C et ça c'est avec Ewen.
En effet, à 11h30 sur le terrain C, on a eu Nantes contre Montpellier. Malgré une domination nantaise, c'est Montpellier qui a ouvert le score d'une belle frappe lointaine. Les filles de Montpellier ont accentué un peu plus leur avance avant la mi-temps. La deuxième mi-temps a été plutôt serrée avec une domination assez égale qui n'a pas donné de but en seconde période. Le match se finit donc sur un 2-0 pour Montpellier.
On va s'intéresser maintenant, toujours chez les filles, à Lille-Lorient. C'est des belles affiches de Ligue 1, ça, tout ça. Et ça, c'est avec Bleuen.
En effet, même avec un match nul, les filles de Lille et de Lorient ont fait un très beau match. Malgré une bonne défense des deux côtés à la première mi-temps et Lille qui prenait l'avantage, Lorient s'est quand même rattrapé. Néanmoins, les filles ne lâchaient rien et étaient prêtes à tout pour remporter la victoire.
Et on va s'intéresser à une nouvelle affiche de Ligue 1 pour la saison prochaine, parce qu'on est quand même super content, hein, mine de rien. C'est le stade brestois qui affrontait Dijon.
En effet, dès l'entrée, les Brestois sont offensives, mais la gardienne dijonnaise tient bon. Les dijonnaises défendent très bien, les fautes se multiplient. Premier but pour Dijon. La joueuse profite d'un cafouillage pour marquer quand les cages sont vides. On sort le brancard pour une joueuse brestoise qui s'est blessée devant ses buts. Mi-temps, 1-0, reprise. La gardienne dijonnaise dévie une frappe sur la barre suite à une superbe action des joueuses dijonnaises. La gardienne arrête la balle, mais peu de temps après, la gardienne manque d'attraper la balle et une joueuse dijonnaise s'en empare pour marquer le deuxième but. Fin du match.
Et on va s'intéresser maintenant à ce qui s'est passé chez les garçons ce matin. Alors on va commencer avec Ewen, avec une grosse surprise quand même, parce qu'on n'a pas vu Arsenal passer en tournoi des champions. T'as vu ce qui s'est passé un petit peu? Pourquoi Arsenal n'est pas dans le tableau final?
Et oui, Arsenal a fini 3e de sa poule, notamment à cause d'une défaite contre Franconville, due à une maladresse du gardien. À l'engagement, le gardien de Arsenal était distrait et les gars de Franconville ont tiré tout de suite et marqué le seul but de cette rencontre.
Alors Franconville, on va continuer à en parler parce qu'ils ont affronté Lorient, c'était sur le stade B, c'était ce midi à 12h30 avec Ewen et Tugdual. Tugdual, on t'écoute.
Oui, car dès la première action, avec une belle passe en profondeur qui aboutit à rater d'un joueur de Lorient, Lorient multiplie de belles actions. Un joueur de Lorient arrive devant les buts, mais le retour du numéro 3 de Franconville permet au gardien de rester tranquille. Le latéral droit lorienté multiplie les bonnes actions individuelles. But sur un coup franc sur un coup de pied arrêté, une tête lorientaise envoie le ballon au fond des filets. Le double arrêt du gardien de Franconville empêche Lorient de faire le break. Franconville égalise sur une belle frappe croisée, un partout. Franconville obtient une faute près de la surface. Le tireur décide de la mettre dans la surface, mais la balle est mal reprise par un joueur de Franconville. Fin du match, un partout.
Alors on va s'intéresser aussi maintenant à une autre affiche, une belle affiche aussi sur le papier. C'était Benfica contre Plabennec, c'était sur le stade C, à 12h30. Et Ewen,
à 12h30, on voit s'affronter donc sur le terrain C le Benfica Lisbonne contre Plabennec. Dans ce match, on voit plutôt une domination de Lisbonne. Ils sont nettement supérieurs techniquement et vont ouvrir le score pour le seul but de ce match. Il va y avoir des occasions pour Plabennec, mais aucune n'aboutiront à un but face au gigantesque gardien de Lisbonne.
Et on va s'intéresser peut-être à un autre grand favori de cette compétition, parce qu'on a parlé de Benfica. On va parler de l'AS Rome maintenant avec toi, Bleuen, qui affrontait les Réunionnais de la Saint-Pierroise.
Donc effectivement, c'était un beau match avec une victoire de 2-0 pour l'AS Roma. En début de match, Roma avait l'avantage sur Saint-Pierroise. Après un coup franc échoué, ils finissent par marquer leur premier but en première partie. Puis même avec une bonne défense du côté de Saint-Pierroise, ils marquent leur deuxième but et dernier but en deuxième partie de match.
Puis on va faire un point maintenant avec Gaël qui va nous faire un petit peu un point statistique sur le tableau final. On en est où là? On a dépassé les phases de poule.
Alors oui, du coup là, on a par exemple en tournoi espoir, Arsenal qui se qualifie pour les quarts de finale, donc ça va se jouer dans peu de temps. Là, on n'a pas beaucoup d'informations en plus, mais on voit bien Arsenal remporter le tournoi Espoir. J'ai pas beaucoup plus d'informations à ce niveau-là, mais ils ont surdominé un match avec une victoire 7-1. C'était impressionnant.
Et on parlait tout à l'heure de match de poule, mais là, on a entamé le stade des huitièmes de finale, là, largement. Il y a déjà eu des résultats. Il y a eu presque des surprises, non ? Il y a eu notamment un West Ham-Landerneau.
Oui, avec un match nul qui s'aboutit à une séance de pénalty remporté par West Ham. Mais on sentait qu'il y avait de la pression et c'était quand même une délivrance pour les joueurs de West Ham, même si c'était un petit club en face. On sentait que c'était important pour eux de l'emporter et c'était pas facile.
Merci beaucoup Gaël. Alors on va faire un autre détour avec un autre club dont on n'a pas encore parlé jusqu'à présent. Et pourtant vous le connaissez tous, c'est l'AS Monaco. On a réussi à s'entretenir avec l'entraîneur de l'équipe U11 qui a accepté de passer dans nos studios. On l'écoute nous parler de son club et puis aussi des résultats de son équipe.
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots s'il vous plaît ?
Bonjour, donc je m'appelle Raphaël Ulrich, je suis éducateur des U11 à Monaco, j'ai 33 ans, aussi joueur en DHR à l'AS Monaco. Et je fais en sorte de participer à tous les tournois, tout ce qui est Bretagne, etc. Et je suis aussi joueur à l'AS Monaco en DHR. Ma dernière année, sûrement, à 33 ans. Mais voilà, je joue à l'AS Monaco.
Merci. Comment vous débrouillez-vous dans ce tournoi ?
Plutôt pas mal. Hier, on a fait une très belle journée. Un bon départ, on gagne tous les matchs, on fait un seul match nul. Donc du coup, belle performance des enfants. Ce matin, bon, un peu plus dur, avec un match nul et une défaite contre l'AS Roma. Pas mérité, mais c'est le football. Et là, on est en 8e de finale contre Rennes à 1h30. Donc du coup, à voir ce qui va se passer.
Merci.
Depuis combien de temps participez-vous à ce tournoi ?
Il me semble, si mes souvenirs sont bons, c'est la deuxième année qu'on le fait en U11, parce qu'avant, il n'y avait pas les U11 au football. L'année dernière, je n'ai pas pu participer parce que justement, j'ai joué le dimanche, donc je n'ai pas pu y participer. Et cette année, c'est la première fois que j'y participe. Donc j'espère aller au plus loin.
Okay. Est-ce que c'est compliqué d'entraîner des jeunes ? Est-ce qu'ils sont stressés d'aller sur ce tournoi ?
C'est pas compliqué d'entraîner les jeunes si ils respectent ce qu'on leur demande. Et à Monaco, le plus souvent, ils respectent. Donc c'est pas compliqué. Au contraire, c'est facile. Après, c'est sûr que même nous, en tant que coach, on est stressé de venir dans des tournois comme ça parce qu'on va le faire au mieux, on va aller au plus loin pour représenter le club. Et c'est sûr que c'est pas facile pour les jeunes. À 11 ans, de gérer ce stress, les matchs, la tension, donc c'est pas facile pour eux. Donc on fait en sorte d'apaiser le truc et que tout se passe bien sur le terrain.
Est-ce que vous aviez un objectif avant de venir pour ce tournoi ?
Oui, avant de commencer le tournoi, l'objectif c'était le carré final. Donc du coup, c'est dans tous les tournois, on redemande d'aller au plus loin, de donner le maximum. Après, si le chemin, le parcours s'arrête avant, c'est pas bien grave. Le but, ce que je veux, c'est que les petits donnent le maximum et tout pour aller au plus loin. Après, si on tombe contre plus fort, ça reste le football. Donc du coup, je ferai que les féliciter. Si dans tout ce qu'il y a à donner, il n'y a pas de secret.
Comment on fait pour devenir un petit joueur de l'ASM, rentrer en U11 ? Comment ça se passe ?
Ben, on a des détections qui se font 2-3 fois dans l'année. Donc après, il y a pas mal de joueurs qui se présentent de plus en plus. Donc du coup, c'est vrai qu'on a un petit bassin à l'AS Monaco, mais avec la bonne réputation qu'on a en tant que coach, les petits viennent de plus en plus. Après, on sélectionne malheureusement 18 joueurs, 17 joueurs, 16 joueurs par catégorie. On prend forcément les meilleurs. Même s'ils sont un peu moins bons, on fait en sorte qu'ils progressent, parce que le but d'un éducateur, c'est faire progresser les petits qui sont un peu moins bons. On n'aura jamais 18 bons joueurs. Donc forcément, on aura peut-être 5, 6, et c'est à nous de faire en sorte que les autres, les 13 autres, progressent. Donc c'est notre physionomie, on va dire.
T'as croisé le chemin de Kylian Mbappé au centre d'entraînement de Monaco ?
Eh bien, il s'avère qu'on a fait un tournoi à Guy Primessac, un gros tournoi pour les jeunes, les U10, Ligue des Champions, et ils nous avaient fait une vidéo pour les petits, pour les encourager. Donc du coup, c'était avant qu'il explose en pro et qu'il parte au PSG. Donc du coup, c'est toujours sympa de revoir cette vidéo. Après, on le croisait dans les rues de Monaco, simple. Donc du coup, je l'ai même croisé dans ma salle de sport parce que je suis coach sportif avec sa maman, simple. Donc du coup, avant qu'il explose au PSG, avant d'exploser à Monaco, j'avais déjà croisé plusieurs fois et ça reste un bon gamin.
Vous en faites beaucoup des tournois comme ça avec l'ASM, vous vous déplacez un petit peu partout en France, avec plusieurs équipes j'imagine pour un niveau de catégorie U11.
Ben, on en fait pas mal, je pense cette année je crois qu'on en a fait 13.
Donc la plupart des tournois se passent ici, en Bretagne ou à Nantes. Donc du coup, on est tout le temps dans cette région-là, Brest ou Nantes. Le plus loin, c'est en Russie, parce qu'on a un tournoi aussi en Russie en début d'année. On avait la République tchèque l'année dernière, bon, il a arrêté malheureusement. Et oui, ça fait pas mal de tournois dans la région, on n'en a pas beaucoup, on a un ou deux. Mais pour les U11 élites, oui, on en fait pas mal à l'extérieur.
En général, c'est l'équipe A qui va au tournoi ou c'est d'autres équipes?
Oui, c'est toujours l'équipe élite. On fait en sorte de prendre les meilleurs. Et pour nous, c'est plus respectueux et logique d'envoyer quand on peut, d'envoyer l'équipe A au plus beau tournoi.
Et nous sommes toujours à Dirino pour le tournoi international de Dirino. On est de retour en plateau et nos invités sont là. Et Laurane, qui fait partie des bénévoles de Radio Évasion qui anime cette émission, et ben, va lancer cette première interview.
Oui, donc il est passé 15h, dans 2h c'est la finale. Donc Jean-François, pouvez-vous nous faire un petit bilan d'avant-finale de cette 25e édition?
Ben, le bilan est pour le moment très 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 positif. Depuis le début du tournoi, on constate que chaque équipe donne le maximum pour obtenir des résultats, pour bien figurer, pour donner une bonne image de son club. Et pour le moment, on y est. Alors, c'est vrai qu'à la fin de la journée d'hier, des tournois de niveau se sont constitués. Et là, on voit que les matchs deviennent vraiment, vraiment, vraiment serrés.
Oui. Alors, oui. Laurane, on est avec Jean-François Cardrao en plateau pour situer, qui est l'organisateur, la cheville ouvrière de ce tournoi. Puis on a aussi Saïd, aussi entraîneur des clubs présents sur ce tournoi. Tu peux nous rappeler l'école pour laquelle tu entraînes?
C'est l'école Massignan de Casablanca. Voilà, on vient du Maroc exactement et ça fait une quinzaine d'années qu'on est au tournoi de Dirino.
Voilà. Casablanca, c'est juste beau. Vas-y, Laurane.
D'accord. Donc, du coup, justement, à l'image de Saïd qu'on a eu hier en interview, j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de fidèles à ce tournoi. À votre avis, qu'est-ce qui fait que ce tournoi est si séduisant pour ces équipes?
Bien, c'est vrai que nous, on attire une... pour nous, la fidélité a une grande importance en tous les cas. On fait en sorte que les personnes se sentent le mieux possible accueillies dans et sur le tournoi et dans les familles qui hébergent. Donc c'est vrai qu'on accorde une grande importance à ça. Les bénévoles aussi sont très très motivés à l'idée de donner une bonne image du tournoi, de leur commune et de la région, ce qui fait que des liens se créent, notamment avec Saïd et son équipe de Casablanca qu'on a plaisir à revoir chaque année. Et c'est vrai que les liens comptent beaucoup pour nous.
D'accord, justement, en parlant des bénévoles, on sait que Dirino est un tournoi connu notamment pour le nombre de bénévoles. Donc d'où viennent-ils, combien sont-ils et quel est le portrait type de ces bénévoles?
Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse donner un prototype du bénévole parce qu'on a de tout âge. Et on voit des bénévoles qui n'ont même pas l'âge de jouer au tournoi, qui commencent à donner un coup de main en servant au bar à eau. Donc ça commence par là. Et puis après on joue, et puis après avoir joué, ben on donne encore un coup de main au sandwich. Et puis nos aînés, ou j'aime pas dire les anciens, nos expérimentés sont aussi là pour nous donner un coup de main dans l'organisation matérielle. Et voilà, donc les âges sont différents, les aspirations sont différentes, puisque parce qu'en fait, vous avez vu, c'est une fourmilière, le tournoi international, et il faut avoir les compétences sont multiples. Donc les gens vont de fait naturellement vers les thèmes qui les intéressent le plus. Pour certains, c'est l'organisation plus sportive des choses. Pour d'autres, l'hébergement. Pour certains autres, la restauration, l'hébergement durable, la radio. Puisque vous y êtes. Donc vraiment, mais en tout cas, le dénominateur commun, c'est vraiment l'idée de travailler ensemble, de passer du bon temps ensemble et de faire avancer le tournoi dans une bonne atmosphère et avec une bonne image.
Oui, mais ces bénévoles viennent plus de Dirino ou c'est ça peut être n'importe quelle plus de Dirino ou n'importe quelle commune, mais
Alors, sans doute plus de dire non, mais on, vraiment, on a envie de s'ouvrir aussi à toutes les communes avoisinantes. Évidemment que voilà, les Dirinois sont sans doute un petit peu plus concernés, mais on apprécie tous les coups de main qui peuvent être donnés de partout. Et on a des bénévoles qui viennent maintenant de plusieurs, parfois dizaines de kilomètres, nous donner un coup de main.
Ok, donc parlons un peu organisation. Ça fait quand même... Enfin, vous avez toujours participé à l'organisation du tournoi de Dirinon, et après quand même un quart de siècle d'existence, avez-vous pu remarquer des grands changements au niveau de la préparation, peut-être des anecdotes ou autre chose?
Oui, c'est sûr que le tournoi évolue. L'esprit reste le même, je pense. En tous les cas, c'est ce qu'on défend. Le bénévolat reste le même, la notion d'accueil reste, enfin c'est notre terreau, quoi. C'est là-dessus qu'on s'appuie. Maintenant, bien sûr que les choses évoluent, hein, parce qu'on apprend d'une année sur l'autre, même si pour beaucoup on a quand même pas mal d'années d'expérience, les années ne se ressemblent pas forcément. Donc on doit toujours essayer d'avancer, d'améliorer un petit peu les affaires, et puis et de développer notre organisation, oui.
C'est Yann qui a repris le micro. Je vais reposer une question donc à l'autre invité qui est à côté de vous, qui participe depuis longtemps. Vous en avez parlé hier, justement, lors de cette interview. Mais vous qui avez vu un peu grandir aussi ce tournoi, comment vous l'avez vu évoluer?
Je pense que il y a des choses dans la vie qui doivent évoluer en général. Je pense que quand on n'évolue pas, on reste sur place. Et c'est vrai que aussi la possibilité justement d'avoir des échanges, et c'est aussi, je pense que la force de Dirinon, c'est être à l'écoute justement des chefs de délégation, justement des équipes, justement pour plein de choses, que ce soit au niveau sportif, que ce soit au niveau organisationnel par rapport aux gens qui interviennent au niveau de Dirinon. Et je pense que je me rappelle, il y a 15 ans quand on est arrivé, c'est vrai que bon, déjà, il y a ces locaux, je ne me rappelle pas du tout si ce local existait, et c'est vrai qu'il y avait juste une buvette. Et puis c'est vrai qu'il y a des choses qui ont énormément changé par rapport à 2004, même au niveau de l'engouement justement par rapport à... C'est vrai, quand on parlait tout à l'heure du bénévolat, je pense que le bénévolat devient ici une sorte, je dirais, une sorte de religion, en fin de compte. C'est-à-dire, tout à l'heure, justement, Franchi qui disait, voilà, il y a un petit qui s'occupe de l'eau, l'autre qui s'occupe de telle ou telle chose. C'est vrai, on essaie de cultiver justement ça pour qu'il y ait une relève. Et j'ai l'impression que de plus en plus, les gens sont impliqués de façon, je dirais, ils s'impliquent de façon totale, avec un grand plaisir. Et ça, je pense, en ayant fait plusieurs tournois, je pense que c'est un tournoi, en fin de compte. Ça fait un petit peu comme si on vous piquait quelque part. Et c'est pour ça que ça fait 15 ans que je viens ici. Et je l'avais dit, je le répéterai encore une fois. C'est vrai que dans 3 ans, peut-être que le tournoi se terminera pour moi en tant que coach. Mais je pense qu'il continuera toujours, bien sûr, par rapport au fait aussi de venir voir des amis. Ce n'est plus du tout juste des gens que je rencontre une fois par an, mais c'est des gens aussi qui viennent au Maroc nous voir aussi. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel dans un tournoi comme celui de Dirinon. 2400 habitants, on a l'impression qu'on arrive dans un gros village. Super bien organisé, on a l'impression. Et c'est vrai que la première année, j'ai des parents qui sont venus, il y a 4 parents qui sont venus, ils en reviennent pas. Et c'est vrai que des parents, dont un qui est président, premier vice-président du Raja de Casablanca, qui est un grand club au Maroc, et qui est là, et qui n'en revient pas. Et c'est vrai qu'il y a un remerciement total.
Je pense qu'on a trouvé en tout cas une mission pour dans 3 ans pour vous. Je pense que ça sera le même attaché de presse, quoi. Mission communication avec Saïd.
Absolument.
Je pense que Dirinon a trouvé en tout cas un successeur pour la presse. Je te redonne la parole, Lorraine.
Oui, et justement, revenons à vous, Jean-François. Quel est un peu votre rôle du coup dans cette organisation?
Alors, je suis en charge de l'organisation sportive du tournoi. Ça veut dire composer le plateau sportif, déterminer quelles équipes nous allons engager, essayer de décrocher de nouvelles équipes aussi, de nouveaux pays, etc. Et puis, l'organisation sportive, c'est aussi l'organisation des matchs, l'arbitrage, etc. Mais là, j'y suis moins parce qu'on a une équipe incroyable là au podium. qui gère de façon exceptionnelle le déroulé du tournoi.
Celle-là.
Et puis ensuite, veiller au moment du tournoi à ce que les choses se passent bien pour les uns et pour les autres, que ça se passe bien et sur le terrain et aussi au dehors au niveau de l'hébergement, des transports, etc.
Et sinon, qu'avez-vous fait de votre week-end? Vous avez pu regarder un peu les matchs et quels sont vos pronostics sur cette
Alors oui, j'ai pu regarder quelques matchs. J'ai aussi cherché Saïd plusieurs fois dans le week-end. Il est dur à trouver, il faut courir. je me permets pas de rester regarder de longues minutes des matchs parce qu'il y a toujours quelqu'un à voir, quelque chose à faire et la suite à organiser. Hein. Maintenant, il y a de très belles équipes au tournoi, ça c'est certain. Le fait de travailler, comme je disais tout à l'heure, sur des plateaux de niveau avec des tournois des champions, des espoirs et de l'élan permet à chacun de trouver un petit peu le niveau qui lui convient. L'idée, c'est que chacun puisse repartir content de son tournoi, même sans l'avoir forcément remporté, parce que tout le monde n'y arrive pas. Et le clou du spectacle sera certainement les demi-finales et les finales qui se présentent avec des belles équipes et puis des clubs qui font rêver hein, pour ceux qui aiment le foot. Voilà, donc on se régale.
Merci beaucoup, Jean-François Kerdraon. Donc, alors, vice-président ou président ? Vice-président, donc en charge de l'organisation du tournoi. Et Saïd, entraîneur de l'école de Casablanca. Comment, tu peux le redire ? L'école ?
L'école Massignan de Casablanca.
Très bien. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux.
À vous aussi, merci à vous.
En direct et en public.
Et nous sommes toujours en direct du tournoi de Dirinon pour cette émission en extérieur, extramuros, Radio Évasion et en dehors de ces murs. Alors Yann, t'es avec nous ou pas? Yann, est-ce que tu nous entends? C'est Bleuhen au micro.
Ouais, c'est bon, on entend.
Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme match en face de nous? Là, tu peux nous raconter, Bleuhen?
Comment vous appelez?
Jean-Pierre.
Alors, Jean-Pierre.
D'où vous venez, nous?
Alors, du fou. C'est juste à côté, le Escrano.
Mais nous aussi, on vient du fou. C'est incroyable.
La radio aussi, elle est du fou.
Ah bon?
Ouais.
Et Radio Évasion, ah ouais.
Du coup, là, il y a le match qui est en train de se dérouler.
Bon. Alors, c'est quoi le score, là?
Entre le Stade Brestois et le Benfica, là, c'est formidable.
Là c'est quoi comme match, là?
Benfica contre le Stade Brestois.
Et vous êtes pour qui, pour quelle équipe?
Oh, le Stade Brestois, quand même. Quand même. Minimum.
Attends, c'est bon, ça marche.
Il y a eu un petit bug au micro, mais tout va bien.
Et alors là, donc vous venez du fou et vous êtes resté sur les deux jours, là? Ah la vache, on vient de voir un but. Ah là, qu'est-ce qui vient de m'avoir marqué?
Benfica a marqué.
Quel est le score?
Le score là, ça fait combien?
2-1 pour Benfica.
2-1 contre donc Brest, et il reste combien de temps de jeu là?
Oh, il n'a pas resté lourd, hein, je pense pas.
Aïe.
Donc, alors attends, je prends le micro pour commenter. Alors là, je sais pas. Alors moi, je suis super bon en foot, donc les rouges, c'est Brest, c'est ça? Et alors, c'est quoi l'avantage de Benfica là sur le jeu là?
L'avantage de
Benfica, ben moi, je veux dire, c'est quoi l'avantage? C'est le gardien.
Bon, leur gardien n'est pas top, hein, mais ils ont des bons éléments, hein, le 5.
Mais ils ont un gardien qui fait quasiment 2 mètres.
Ouais, il fait 2 mètres, c'est tout. Mais il n'y a que la taille.
Alors, comment est-ce que... je sais pas.
Allez, c'est pas grave, on est en direct sur Radio Évasion, on est avec des jeunes.
Ouais, et tu t'en vas pas trop loin.
Et si je me mets trop loin, ça déconne un peu. Allez, ouais. On va aller voir qui. Tiens, on va aller voir des gens au bar là. Comme ça, je vous rappelle que vous êtes en direct sur Radio Évasion. On est avec une équipe de jeunes à qui j'ai pris le micro. Bleuhen, tu veux continuer ou alors je continue? Allez, Bleuhen va rencontrer le public.
Cette émission se termine. Voilà, on se retrouve à 17h, un petit peu plus tôt par rapport à hier, pour une prochaine émission. À très bientôt sur Radio Évasion.
En direct et en public.